Chapitre 16, l'expansion de l'Église. Le plan divin. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que son peuple se réunisse pour former de grandes communautés. Les disciples du Christ sont ses représentants ici-bas, et Dieu désire qu'ils se dispersent partout, dans les villes et les villages, pour être des lumières au sein des ténèbres. Le plan qui consiste à quitter les diverses localités de peu d'importance pour se concentrer dans une ville en vue d'y exercer une grande influence aboutit à enlever la lumière d'endroits où Dieu voulait la voir briller. Si l'Église du Christ accomplissait la volonté du Seigneur, la lumière brillerait sur tous ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Au lieu de se grouper, et de refuser égoïstement de porter leur croix, les membres de l'Église se répandraient dans tous les pays, pour y faire luire, comme Jésus lui-même l'a fait, la lumière de l'Évangile du Royaume. Frères et sœurs, pourquoi hésiter en ce qui concerne l'activité des Églises? Étudiez la parabole de la brebis perdue, et suivez l'exemple des vrais bergers qui vont à la recherche des brebis perdues dans le désert du péché. Cherchez à sauver ceux qui périssent. Les membres de nos églises peuvent accomplir une œuvre que, jusqu'à présent, ils ont à peine commencée. Nul ne doit s'installer dans un nouvel endroit simplement pour y recueillir des avantages matériels. Mais là où il est possible de gagner sa vie, que des familles, une ou deux, bien fondées dans la vérité aillent demeurer pour y faire du travail missionnaire. Ayons l'amour des âmes, et nous pourrons nous dévouer pour elles et voir comment il est possible de leur faire connaître la vérité. On peut distribuer des brochures, tenir des réunions dans les maisons, et y inviter les voisins. C'est ainsi qu'on fera luire la lumière par ses bonnes œuvres. Des frères qui ont l'intention de changer de domicile en ayant en vue la gloire de Dieu et qui ont conscience de leur responsabilité personnelle pour faire du bien aux autres et ainsi sauver des âmes en faveur desquelles le Christ n'a pas hésité à verser son sang précieux, peuvent s'établir dans des villes et des villages où la lumière n'a pas, ou presque pas, pénétré, où ils peuvent se rendre utiles et être en bénédiction aux autres par leur travail et leur expérience. On demande des missionnaires désireux d'aller dans les villes et les villages pour brandir l'étendard de la vérité, permettant à Dieu d'avoir des témoins dispersés à travers le pays en vue de faire briller la lumière de la vérité là où elle n'a pas encore pénétré, et dresser l'étendard de cette vérité où il était encore inconnu. Rien n'éveille mieux le zèle missionnaire, rien n'élargit et ne fortifie davantage le caractère que la sollicitude envers le prochain. Beaucoup de soi-disant chrétiens ne songent qu'à eux-mêmes en demandant leur admission dans une église. Ils pensent aux relations agréables qu'ils vont se créer, et aux soins du pasteur. Ils deviennent membres d'une église nombreuse et prospère, et ne se soucient guère de leur prochain. Ils se privent ainsi des bénédictions les plus précieuses. Ils auraient tout à gagner en renonçant à leurs relations attrayantes, et en se rendant là où leurs énergies pourraient être mises au service du Christ, et où l'on pourrait leur confier des responsabilités. Il y a des milliers d'endroits en Amérique où l'étendard de la vérité n'a jamais été dressé, où la vérité n'a jamais été proclamée. Il faut y pénétrer. Et il y a des milliers de membres qui pourraient entrer dans la moisson et qui, pour le moment, souffrent de paresse spirituelle. Par conséquent, ils vont clopin-clopant sur le chemin qui monte au ciel, et se demandent même s'ils sont encore chrétiens. Ils ont besoin d'entrer en vivante communion avec Jésus-Christ. Alors on pourra leur dire qu'ils sont ouvriers avec Dieu. Je tiens à leur dire ceci, vous attendez que quelqu'un vous conduise dans la vigne et vous mette à l'œuvre, ou qu'il transporte la vigne jusqu'à vous, pour n'avoir à rencontrer aucun inconvénient dans le travail. Vous attendez en vain. Si vous vous donnez la peine de lever les yeux, de quelque côté que vous regardiez vous verrez les champs qui blanchissent, attendant le moissonneur. Vous trouverez une œuvre à faire auprès et au loin. Mais à combien d'entre vous le Christ dira-t-il au jour du jugement, bon et fidèle serviteur? Je m'imagine les sentiments que doivent éprouver les anges, devant la proximité de la fin, en voyant ceux qui prétendent connaître Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé, se rassembler, converser entre eux, fréquenter les réunions et se sentir mécontents lorsque la prédication ne nourrit pas suffisamment leurs âmes et l'Église, tandis qu'eux-mêmes ne font pratiquement rien. en se fixant dans des localités où ils ne réussiraient pas aussi bien dans leurs affaires temporelles et financières, mais où la vérité n'a pas encore été proclamée, où jusqu'à présent n'a brillé qu'un mince filet de lumière, n'accomplirait-il pas précisément une œuvre similaire à celle que Jésus a réalisée pour les sauver? Il est grandement nécessaire d'accomplir l'œuvre missionnaire qui portera la vérité non seulement au pays lointain mais à notre voisinage immédiat. Tout autour de nous se trouvent des villes et des villages où rien ne se fait pour le salut des âmes. Pourquoi certaines familles, qui connaissent la vérité, ne s'établiraient-elles pas dans ces localités pour y dresser l'étendard du Christ, travaillant avec humilité, selon la voie du Seigneur et non la leur, pour apporter la lumière à ceux qui l'ignorent? Lorsque l'Église sera vraiment imprégnée de l'esprit du message, elle jettera toutes ses énergies dans l'œuvre du salut des âmes pour lesquelles le Christ a donné sa vie. Elle pénétrera dans de nouveaux champs. Des membres, qui ne sont pas des prédicateurs consacrés, se rendront dans les églises et travailleront avec Dieu pour y ranimer les choses qui sont sur le point de mourir. Certains membres s'établiront dans des villes et des villages, y compris des endroits isolés, pour y apporter la lumière que Dieu leur a confiée. Parmi les personnes avec lesquelles ils entreront en contact, il y en aura qui, de prime abord, laisseront une impression défavorable, mais à leur sujet il faudra se poser ces questions. Parviendront-elles à la communion avec le Christ? Bénéficieront-elles de l'effusion de son esprit, de manière que leur influence, par le précepte et par l'exemple, réjouisse l'auteur de toute vérité et de toute justice? Dans des endroits où la vérité n'est pas connue, des frères qui ont des capacités pour un tel travail peuvent louer une salle pour y recevoir tous ceux qui sont disposés à venir, et qu'ils pourront ainsi instruire dans la vérité. Ils ne devront pas chercher à faire des sermons, mais simplement ouvrir la Bible et permettre à Dieu de parler par elle. Même si l'assistance n'est pas nombreuse, ils peuvent lire ces mots, « Ainsi parle le Seigneur », dans le calme et sans ostentation. Qu'ils exposent les vérités évangéliques dans leur simplicité, et qu'ils chantent et prient avec les auditeurs. L'édifiant exemple d'Abraham. Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais il n'hésite point. Il ne demande pas si le pays où il se rend est fertile, si le climat en est salubre, si les environs en sont agréables, ni s'il est possible de s'y enrichir. Dieu ayant parlé, son serviteur obéira, car, pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. Beaucoup de croyants, aujourd'hui encore, sont soumis à la même épreuve que le patriarche, averti, non par une voix venant directement du ciel, mais par la parole de Dieu, et par des circonstances providentielles. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux, pour entrer dans une voie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique, risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle Dieu les destine. En conséquence, il les emmène, loin des influences et des conseils humains, là où, n'ayant plus que Dieu pour ressource, ils puissent faire connaissance avec lui. Heureux mortels, ceux qui acceptent des devoirs tout nouveaux dans des champs d'activité inexplorés, et qui sont prêts à travailler pour Dieu d'un cœur ferme et joyeux, estimant, par amour pour le Sauveur, leur perte pour des gains. Celui qui consent à faire cela possède la foi d'Abraham, et partagera avec lui le poids éternel d'une gloire sans mesure et sans limite, auprès de laquelle les souffrances du temps présent sont sans aucune proportion. Que fais-tu ici? Comme ces résultats dépendent en grande partie de l'activité incessante des ouvriers du Seigneur fidèles et sincères, Satan fait l'impossible pour les pousser à la désobéissance, afin de faire échouer les desseins de Dieu. À certains d'entre eux, il fait perdre de vue la noble et sainte mission à laquelle ils ont été appelés, et il les rend sensibles au plaisir de cette vie. Il les pousse à s'installer dans des demeures confortables, ou à changer de résidence si les avantages matériels leur paraissent plus intéressants ailleurs. C'est ainsi qu'ils abandonnent des endroits où ils auraient pu exercer une heureuse influence. Satan pousse encore d'autres serviteurs de Dieu à quitter leur travail lorsque le découragement s'empare d'eux à la suite de l'opposition ou de la persécution. Et cependant, pour tous ces hommes, le Seigneur éprouve la plus touchante pitié. À tout enfant de Dieu dont la voix a été réduite au silence par l'ennemi de nos âmes, Dieu pose cette question : Que fais-tu ici ? Je t'ai ordonné d'aller dans le monde entier prêcher l'Évangile et préparer un peuple pour le jour du Seigneur. Pourquoi es-tu ici? Et qui t'y a envoyé? Aux familles comme aux individus, cette question est posée, que fais-tu ici? Dans de nombreuses églises se trouvent des familles très éclairées sur les vérités évangéliques. Elles pourraient élargir leur sphère d'influence en se rendant dans des lieux privés de ministres de la parole et qu'elles seraient capables de remplacer. Appel à des familles chrétiennes. Des familles pieuses devraient s'installer dans les régions incultes. Que des agriculteurs, des financiers, des entrepreneurs et des artisans aillent se fixer dans les lieux en friche pour y améliorer le sol, y fonder des industries, y construire d'humbles maisons pour eux-mêmes et venir en aide à leurs voisins. Dieu s'attend que les familles chrétiennes se rendent dans des lieux encore plongés dans les ténèbres, et y travaillent pour lui avec tact et persévérance. Il faut du renoncement pour répondre à de tels appels. Pendant qu'un grand nombre attendent que tout obstacle ait disparu, des âmes meurent sans espérance et sans Dieu. Il en est qui se rendent dans des régions pestilentielles, malgré les souffrances et les privations, simplement pour un avantage terrestre ou pour acquérir des connaissances scientifiques. Qui veut les imiter pour parler du Sauveur? Où sont les hommes et les femmes prêts à partir dans les régions encore plongées dans les ténèbres pour y annoncer le Rédempteur? Des familles entières pourraient devenir des missionnaires, chacun de leurs membres accomplissant un travail personnel, mettant ses mains et son cerveau au service du Maître, tout en étudiant de nouvelles méthodes pour faire progresser son œuvre. Si des familles étaient disposées à s'établir en des endroits enténébrés, où la population se débat dans une profonde carence spirituelle, pour y faire briller la lumière de la vie du Christ émanant d'elle-même, une grande œuvre pourrait s'y accomplir. Qu'elles commencent leur travail dans le calme et la discrétion, sans recourir au fond de la fédération jusqu'à ce que l'intérêt suscité soit si considérable qu'elles ne pourront plus y suffire sans l'assistance d'un prédicateur. Toute transplantation exige de bons pépiniéristes. Préparer des ouvriers à se rendre au carrefour et le long des haies. Il nous faut d'habiles pépiniéristes, capables de transplanter des arbres dans différents endroits, et de leur assurer les conditions favorables qui leur permettent de croître. C'est le devoir positif du peuple de Dieu d'aller dans les régions lointaines. Qu'on mette des forces à l'œuvre pour défricher de nouveaux terrains, pour établir de nouveaux centres d'influence partout où s'en offre la possibilité. Recruter des ouvriers animés d'un véritable esprit missionnaire, et qu'ils aillent répandre auprès comme au loin la lumière et la connaissance. Il en est beaucoup dans nos grandes églises qui ne font presque rien. Ils pourraient accomplir un beau travail si, au lieu de rester ensemble, ils se dispersaient dans certains endroits où rien n'a encore été fait. Les arbres plantés trop près les uns des autres ne se développent pas normalement. S'ils sont transplantés, ils croissent admirablement. Il en est ainsi de nos grandes églises. Beaucoup de leurs membres meurent spirituellement, faute de se mettre au travail. Ils deviennent malades et inutiles. Dispersés, ils seraient forts et vigoureux. Des résultats assurés. Si les membres d'église voulaient accomplir le travail qui leur incombe, s'engageant dans la lutte à leurs propres frais, chacun se rendant compte de ce qu'il peut faire pour gagner des âmes, beaucoup quitteraient les rangs de Satan pour se ranger sous la bannière du Christ. Si notre peuple agissait selon la lumière qu'il a reçue, nous verrions sûrement le salut de Dieu. De merveilleux réveils s'ensuivraient. Des pécheurs se convertiraient, et un grand nombre d'âmes seraient ajoutées à l'Église. Nos membres d'Église devraient manifester un vif intérêt pour le travail missionnaire auprès et au loin. Ils seront récompensés par d'abondantes bénédictions dans leurs efforts accompagnés de renoncements en vue de planter l'étendard de la vérité dans de nouveaux territoires. L'argent ainsi employé constituera un excellent placement. De nouveaux convertis se réjouiront grâce à la lumière jaillie de la parole et, à leur tour, ils donneront de leur bien pour que cette lumière de la vérité soit portée à d'autres. Dans les contrées où les conditions sont si difficiles et si décourageantes que beaucoup de prédicateurs refusent de s'y rendre, on enregistrera des améliorations notables si des membres possédant un esprit de sacrifice consentent à s'y établir. Ces humbles ouvriers du Seigneur accompliront un grand travail par leurs efforts patients et persévérants, et parce qu'ils ne se reposent pas sur la force de l'homme, mais sur Dieu qui leur accorde sa grâce. On ne saura jamais en ce monde tout le bien qui pourra en résulter. Une leçon tirée d'une désobéissance de l'Israël d'autrefois. Lorsque les Israélites entrèrent en Canaan, ils ne réalisèrent pas le projet de Dieu qui exigeait une prise de possession de tout le pays. Après avoir obtenu une conquête partielle, ils s'établirent dans la partie conquise pour y savourer les fruits de leur victoire. Sous l'effet de l'incrédulité et de l'amour du confort, ils se réunirent dans les territoires déjà en leur possession au lieu de poursuivre leur avance pour occuper de nouveaux territoires. Ils commencèrent ainsi à s'éloigner de Dieu. En négligeant de réaliser son projet, ils rendaient impossible l'accomplissement par Dieu de ses promesses de bénédiction. L'Église d'aujourd'hui n'est-elle pas en train de commettre la même erreur? Bien qu'ayant en face d'eux le monde entier qui a besoin de l'Évangile, des chrétiens de profession se rassemblent où ils peuvent bénéficier entre eux des avantages de la communauté évangélique. Ils ne sentent pas la nécessité d'occuper de nouveaux territoires de manière à pouvoir porter le message du salut à des régions plus éloignées. Ils refusent de se conformer à l'ordre du Christ, aller par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Sont-ils moins coupables que ne l'était la communauté juive ?